l'émission cinéma mensuelle de Nathalie Slaen. Je suis ravie de vous retrouver à nouveau dans Filmez-moi, votre rendez-vous mensuel de cinéma sur Jet, la radio indestructible, toujours curieuse et audacieuse. Ce mois-ci, nous parlerons d'un coup de cœur à voir dans vos salles préférées, de l'actualité locale du cinéma sous toutes ses formes. Et nous parlerons aujourd'hui du métier de comédienne avec Laurence Huby qui évoquera son parcours et quelques films de son choix. Bonjour Laurence, je suis ravie de t'accueillir dans Filmez-moi.
Bonjour Nathalie.
Bienvenue à toi.
وصوتي يكون مسموع عطيت وتعبت وانا داري احساسي بحالي
Le cœur de ce début d'hiver, c'est le film « La voix de Hind Rajab » de la réalisatrice Kauter Benania. Le film, il a remporté le Grand Prix à la Mostra de Venise avec une longue acclamation du public présent que le film a bouleversé. Il a été produit, entre autres, par Joachim Phoenix et Brad Pitt. Alors ce film, on va le voir à reculons. Moi, j'y suis allée à reculons parce qu'on connaît la fin. Parce qu'on craint d'être confronté à l'horreur du monde qui nous envahit déjà tellement à travers les médias. Parce qu'on veut s'en protéger, parce qu'on se refuse à être submergé par l'émotion procurée par les images de l'injustice, du malheur. On se demande comment on va résister, comment on va faire pour ne pas céder au pathos étalé, comment on va faire pour ne pas se laisser prendre au piège du tire-larme, du récit compassionnel, impudique, indécent, malaisant. On craint d'être pris en otage. Alors certes, c'est dérangeant, mais c'est totalement assumé par la réalisatrice. Et comme dans son précédent film, Les filles d'Olpha, elle a choisi un dispositif particulier qui mêle fiction et réalité et qui la place, à mon avis, parmi les meilleures réalisatrices de notre époque. Alors l'histoire qu'elle reconstitue, elle se déroule sur une seule journée, le 29 janvier 2024. Alors ce jour-là, les employés du Croissant Rouge palestinien reçoivent, parmi de nombreux autres, un appel d'urgence. Une fillette de 6 ans est piégée dans une voiture avec une partie de sa famille, sous les tirs des soldats israéliens à Gaza, assiégés. Elle implore qu'on vienne la secourir. Et tout en essayant de la garder en ligne, ils font tout leur possible pour lui envoyer une ambulance. Et ce sont les véritables enregistrements des échanges entre les employés du Croissant Rouge, la fillette et sa famille qu'on entend. Le film il se déroule à huis clos dans le centre d'appel du Croissant Rouge palestinien à Ramallah. Et il renonce à montrer des scènes de violence explicites. La violence, on l'aperçoit uniquement par la bande sonore. Et c'est là toute la force du dispositif. Réussir à raccorder le réel, rester dans le hors-champ, avec sa mise en image. On assiste alors à une course contre la montre, haletante, Et on découvre aussi que les secours palestiniens sont à la merci d'un système géré par l'armée israélienne qui est seul en mesure de donner l'autorisation aux ambulances de se déplacer dans Gaza. On découvre que pour parcourir quelques kilomètres, il faudra attendre le feu vert des autorités militaires plusieurs heures, sans pour autant être sûr que l'ambulance puisse circuler en sécurité. Alors les membres du Croissant Rouge, ils gèrent la logistique téléphonique, le contact avec la fillette, le contact avec la famille, avec les autorités. C'est leur point de vue qui nous est donné à voir dans ce huis clos haletant. Et ils sont incarnés par de formidables comédiens. Chacun, chacune réagit comme il peut. Alors il y a Omar, interprété par le puissant et sensible Motaz Malès, qu'on a pu voir dans Speak No Evil de James Watkins. Omar, il reçoit les appels, il est à fleur de peau, il s'emporte, il a du mal à canaliser sa colère. Il y a son chef, Mehdi, interprété par l'acteur dramaturge Amar Leel, qu'on a pu voir dans Le temps qu'il reste de Ilyas Suleiman. Mehdi, il gère et fait tout pour ne pas froisser les autorités, pour préserver les ambulanciers, pour essayer de garder son sang-froid face à un système qu'il sait terriblement injuste. Il y a aussi Rana, qui supervise les appels, interprétée par la splendide Saja Kilani, qui, elle, s'accroche aux prières pour garder espoir. Des prières que même la fillette n'entend plus dans le vacarme de la guerre et du sang. Il y a aussi Nisrin, la psychologue, interprétée par la très talentueuse comédienne Clara Khoury. Nisrin, elle soutient les équipes du mieux qu'elle peut. Elle essaie de faire baisser les tensions, de se mettre à distance, mais pour combien de temps ? Face à l'absurdité d'un monde où la vie d'une fillette et d'ambulancier ne valent rien, comme dans une sorte de jeu vidéo assez macabre. Alors leur dilemme, leur impuissance parle à tous les sauveteurs, tous les secouristes, à travers les dangers quotidiens auxquels ils font face pour sauver des vies. Les visages de ces bénévoles, de ces employés, qui sont au fond peut-être le reflet de nous-mêmes, et la voix de Ine Rajab, reflet de notre impuissance, de nos lâchetés collectives, nous hante longtemps après le film. Et ce que nous montre aussi le film, c'est que l'isolement, il peut être rompu par les appels téléphoniques, sorte de fil ténu qui raccroche à la vie et à l'espoir, un peu comme le film en lui-même. Et ces appels, tout comme les images du film, mettent les bourreaux à l'épreuve en les démasquant. Faire croire aux victimes qu'elles sont seules avec eux, les isoler avec une absolue solitude, c'est le propre des bourreaux qui espèrent effacer toute trace de leurs méfaits. Et cette voix, c'est celle de toutes les victimes dans les conflits armés. C'est leur cri face au cynisme des va-t-en-guerre, à la conquête de nouveaux territoires, au détriment de ceux qui y vivent. Alors certes, la parole, l'image ne suffisent plus aujourd'hui à stopper l'odieuse quête mortifère, mais quand viendra le temps de la justice, ces voix, ces images seront des preuves indéniables. Les coupables ne pourront pas nier l'irréfutable. Ils chercheront sans doute à nier sa gravité. Mais nous, nous saurons. C'était un crime de guerre et les coupables devront rendre des comptes. Alors, allez voir ce film, La voix de Ine Rajab, qui n'est ni une opinion ni un fantasme, mais ancré dans la vérité, c'est donner la possibilité à ces voix de ne pas être tues. C'est refuser de détourner le regard, car ce qui n'est pas vu n'existe pas. C'est refuser d'accepter le silence, l'indifférence, qui sont au final les meilleurs alliés du mal. C'est aussi faire œuvre de compassion dans notre humanité commune un peu malmenée. Alors Laurence, est-ce que tu l'as vu ?
Non, malheureusement, je n'ai pas eu le temps d'aller au cinéma.
D'accord.
Non.
D'accord.
Non. Mais, pardon, tu me poses une question, oui. je vais essayer d'être courte. Mais quand tu parles du son, moi, ça me rappelle un film qui m'avait terriblement marqué par le son. C'était, je crois, ce film « Zone d'intérêt ».
Oui.
Voilà, qui parle d'une famille à côté d'un
camp.
D'un camp. Mm. Et le son est un personnage en lui-même qui est... ce film, moi, m'a marqué, qui a été très controversé.
Oui,
d'ailleurs,
tout à fait.
Voilà,
c'est parce qu'il parle beaucoup de la banalité du mal, en quelque sorte.
La banalité du mal et la banalité des sons chez les enfants, surtout. Voilà, c'est comme ça, maintenant.
D'accord, merci. Alors, commençons à explorer les choix de mon invité après ça. Thank you. Alors Laurence,
oui.
Tu as reconnu, il me semble.
Oui, c'est la musique du film Sans filtre oui. De Ruben Östlund.
Oui, tout à fait. Alors ce qu'on vient d'entendre, c'est le CV for Vivaldi, donc un des sons du film du réalisateur suédois Ruben Östlund, Sans filtre, ouais. Où le titre anglais c'est Triangle of Sadness, le triangle de la tristesse. Donc Ruben Östlund, il a obtenu une deuxième Palme d'Or pour ce film en 2022, Palme d'Or qu'il avait déjà obtenue en 2017 pour The Square. Et dans Sans filtre, il nous embarque sur un yacht de luxe et sur le pont, de riches vacanciers côtoient un équipage prêt à tout pour les satisfaire, jusqu'à ce qu'une étrange tempête s'annonce. Alors Sans filtre, ça se compose ce film de trois parties presque théâtrales qui sont distinctes par leur unité de temps et de lieu. Et si on rencontre progressivement des personnages secondaires, le film en fait présente en fil rouge la relation assez tumultueuse entre Karl et Yaya, un couple de mannequins et d'influenceurs. Alors le premier chapitre, il présente les bases de leur amour. Entre fascination et dispute, aussi futile qu'inopiné, sur par exemple les partages de l'addition au restaurant. Et le mannequin, comme l'influenceur, se construisent uniquement sur leur image physique et publique auprès de leurs followers, puisqu'ils sont tout le temps sur les réseaux sociaux. Dans le chapitre 2, à l'occasion d'une croisière de luxe offerte à Yaya, on découvre une galerie de personnages secondaires complètement fantasques et désopilants. Les voyageurs ultra riches affichent leur fortune par leur tenue, leur posture. Ils profitent aussi d'un équipage prêt à tout pour répondre à tous leurs désirs. Ils révèlent alors leur narcissisme et ils usent avec plaisir, parfois même avec sadisme, de leur pouvoir jusqu'à commander aux hôtesses de se baigner pendant leur service. Et la confrontation entre le commandant américain alcoolique interprété par le génial Woody Harrelson, qui cite Mark Twain et Marx, et le russe ultra-riche capitaliste qui cite, lui, Reagan et Thatcher, est particulièrement désopilante. La description d'un vieux couple d'anglais, poli, attentionné, très propre sur eux, qui se révèle en fait d'horribles fabricants de mines antipersonnelles, est aussi cynique que peut l'être peut-être la réalité du monde. Alors le commandant du yacht américain cite Lénine. La liberté dans la société capitaliste reste toujours à peu près la même que dans les anciennes républiques grecques. La liberté des propriétaires d'esclaves. Alors les esclaves dans ce monde policé du luxe, ce sont les serveurs, les femmes de ménage, les techniciens qui jamais ne peuvent dire non ou sortir du rang assigné sans risquer d'être renvoyés. Le clou du spectacle, c'est le mémorable dîner de gala, servi en la présence du commandant. Alors, il justifie le titre en français du film « Sans filtre », car le réalisateur nous sert une pure scène de déchaînement, inattendue et hilarante. Alors, cette séquence, qui est d'une absolue maîtrise technique, secoue d'un raz-de-marée le jeu de convenance de cette caste aisée qui part à la dérive.
Un nouveau Titanic.
C'est cela, exactement. Mais dans le troisième chapitre, l'ordre social est bouleversé. Et contrairement au Titanic, enfin, il y en a eu quelques-uns aussi, mais là, il y a aussi quelques passagers qui sont sauvés, qui se retrouvent ensemble sur une île suite au naufrage du yacht. Et leur survie dépend alors de l'accomplissement de tâches somme toute assez banales, comme faire un feu, pêcher, cuisiner. Et à ces tâches, les femmes et les supposés démunis sont les plus doués. Donc il y a une forme de matriarcat qui s'installe et le pouvoir de l'argent, la hiérarchie sociale, les rapports de genre aussi sont assez vite gommés. Et en cherchant à utiliser leurs compétences pour dominer le groupe, en tirant satisfaction du peu de pouvoir obtenu, même les démunis se montrent finalement aussi voraces et cruels que les plus aisés. Et c'est là la force du réalisateur Ruben Östlund. Exposer une réalité cynique des faiblesses et des lâchetés humaine. Donc c'est une odyssée assez déroutante, aussi une allégorie politique et une satire percutante, réjouissante et drôlissime à mon sens. Alors Laurence,
mais pourquoi ?
Ben voilà, pourquoi ce choix ?
Alors d'abord, il y avait tellement de films que j'aime, mais celui-ci m'est venu, j'aurais pu dire du même cinéaste The Square ou Snow Therapy.
Oui.
Vraiment. Parce que ce que j'aime chez ce cinéaste, c'est qu'il nous met mal à l'aise, il nous maltraite. On croit qu'on va aimer les plus pauvres, mais en fait, ils sont aussi terribles que les riches.
Ça fait penser un peu à Parasite aussi, en ce sens.
Oui, j'aurais pu dire Parasite aussi, c'est ça. Mais, ou c'est plus un thriller. Mais, Et puis, il a le sens du dialogue aussi. Je trouve que cette scène de la première partie entre les deux jeunes mannequins est d'une longueur incroyable, mais elle est drôle. Et puis, à chaque fois, il nous étonne, il nous renverse. Mm. À chaque fois, dans le bateau, ça se passe bien, et blam, ça vient, ils se vomissent dessus, ils se pissent dessus, bref. Et puis la fin, dernière partie, je pense qu'on raconte peut-être le film, mais ça n'empêche pas de le voir. Mais pareil, ça, on est torturé en disant, bah oui, ça y est, la vengeance enfin, des femmes, des pauvres, et puis bam, ça nous balance encore.
C'est pas si simple.
Et puis ce que j'aime aussi, qui peut dérouter, c'est que il nous laisse aussi dans l'interrogation. Pourquoi à la fin le personnage, je crois que c'est le mannequin, court, pourquoi?
Oui, tout à fait. Des interprétations forcément différentes.
On
se pose la question, on se dit « Ah, déjà, ça se termine, mais en fait, qu'est-ce qui va se passer ?
Qu'est-ce qui va lui arriver ?» Et c'est super bien joué, bien écrit, bien scénarisé. Chapeau.
Et pourtant, il y a eu des petites polémiques par rapport à ces deux palmes d'or. Effectivement.
Ouais,
peut-être c'est dérangeant, effectivement.
Oui,
c'est assez inattendu. Vous êtes toujours sur Jet FM 91.2. À l'écoute de Film et moi, l'émission mensuelle de cinéma en compagnie de Laurence Huby, comédienne. Continuons à explorer les choix de mon invité après ça. Alors Laurence, tu as reconnu ?
Ah ben oui, c'est un petit coup de cœur, c'est mon coup de cœur. C'est Little Miss Sunshine.
Oui. Alors, c'est le son, oui, du film, hein, des sons du film ouais. Little Miss Sunshine. C'est le son Super Freak de Rick James, sur lequel la famille se trémousse à la fin du film. Donc, Little Miss Sunshine, il a été réalisé en 2006 par Jonathan Drayton et Valérie Faris. Et il a obtenu le César du meilleur film étranger, l'Oscar du meilleur scénario, du meilleur second rôle masculin en 2007. Et il avait été présenté en fait en compétition en 2006 au festival Sundance du film indépendant. Mmh. Et il a obtenu un super succès critique et public. Alors l'histoire, bon, quand on lit le pitch, on se dit, bon, c'est la chronique d'une famille de losers caractérisés. On se dit que ça va être une critique du rêve américain, assez typique du cinéma indépendant. Mais en fait, le film, il propose autre chose. C'est une sorte de thérapie de groupe, sauvage et ambulante. Donc la famille Hoover, elle habite à Albuquerque, au Nouveau-Mexique. La maison abrite le papa, assez pathétique, qui vit en donnant des séminaires de motivation à des gens qui ont vraiment d'autres chats à fouetter, qui rêvent de publier un livre sur sa méthode pour réussir en 9 étapes. Il y a Dwayne, le fils aîné, qui a fait vœu de silence et qui a juré de rompre ce silence seulement quand il sera admis à l'école d'aviation, qui a un poster de Nietzsche dans sa chambre et qui doit cohabiter avec son oncle Frank, interprété par le génial Steve Carell, dont c'était le premier grand rôle au cinéma. Alors, l'oncle Frank, c'est le spécialiste numéro 2 de Proust aux États-Unis. Il vient de faire une tentative de suicide après sa rupture avec son petit ami qui est parti avec son concurrent, autre spécialiste de Proust. Il y a aussi le grand-père qui est hébergé depuis qu'il a été mis à la porte de sa maison de retraite pour consommation d'héroïne. Alors, seule la mère, interprétée par la géniale Toni Collette, porte la réalité des besoins quotidiens à bout de bras et survit tant bien que mal à la charge mentale imposée. Et puis, il y a Olive, la petite, la Benjamine d'une dizaine d'années, qui sera le moteur de l'aventure dans laquelle embarque la famille Hoover. Parce que la famille Hoover a décidé de conduire Olive dans un minivan brinque-ballon en Californie pour réaliser son rêve, participer à un concours de Minimis, et ce sera le clou du film. Et la famille, elle se soude autour de cet unique but. Donc ce périple au rebondissement multiple, hein, ce road movie, permet à la famille Hoover de trouver une sorte un sens à leur vie, dans la simplicité, l'authenticité, en rejetant les injonctions sociales, et puis en affirmant l'importance de la famille, et puis aussi de l'acceptation de soi. Alors, comment mettre en scène le défilé des petites filles maquillées à outrance, permanentées et vêtues de tenues sexualisantes assez obscènes? En une série de cabrioles sur la corde raide, les réalisateurs ils réussissent à ne pas esquiver le sujet sans faire baisser le niveau d'énergie comique qui fait la réussite du film au final. Donc c'est un assez joli message et des personnages très attachants dans ce film assez rocambolesque, caustique, émouvant, à voir peut-être et surtout en famille. Alors Laurence, tu l'as vu en famille ce film ou la première fois?
Oui, je pense que je l'ai vu en famille, un DVD qu'on avait acheté comme ça. Et puis maintenant c'est devenu un rituel, on le regarde tous les ans, quasiment, à Noël. On redécouvre à chaque fois, comme les bons films, hein, on redécouvre des choses qu'on avait oubliées, ou on se dit, tiens, là, ça veut dire ça. J'étais pas très road movie au début. Ouais. C'était pas franchement ce que j'aimais aller voir au cinéma. Et ce film m'a réconciliée avec les road movies. Je suis pas très famille non plus. Et là, j'avoue que c'est vrai que là, tu disais tout à l'heure l'importance de chacun dans un groupe. Eh bien là, il se porte, avant de se supporter, mais il se porte. Et puis, ce que j'aime, c'est qu'ils ont chacun des fêlures. Mais sans être ridicules, ils sont tous très touchants à leur façon. Et puis, cette mise en scène à la fin de Little Miss Sunshine, bon, alors si on connaît, on n'est pas surpris. Si on ne connaît pas, on se dit waouh, c'est dingue d'en arriver là. Mais c'est grinçant.
Oui.
C'est très grinçant.
Oui. Oui.
Et ils arrivent à nous montrer cet univers sans être trop caricatural non plus.
Et au début, quand on voit la première, enfin la scène où ils sont tous à table et ils se balancent des atrocités à la figure, on s'est dit mais comment ils vont faire pour cohabiter, c'est juste impossible. et au final, ils y arrivent. Donc se rassemblant autour de cette petite
puce,
voilà,
qui a un look et un physique est totalement anti-héros.
Oui. Continuons à explorer les choix de mon invité après ça. Alors Laurence, tu as reconnu ?
C'est Tendre Poulet.
Oui, Tendre Poulet.
De Philippe de Broca.
Tout à fait, comédie policière française, donc elle a été réalisée par Philippe de Broca et coécrite, ça c'est pas anodin, avec Michel Audiard en 1978. Alors, avec ce film, on plonge dans le Paris des années 70. Cher, si cher, ce Paris si cher à Michel Audiard, avec ses Solex, ses Renault 5 couleur cacadois, ses deux chevaux vertes, ses téléphones gris à fil et à cadran rotatif, ses paquets gitanes. Donc une France qui se plonge dans la modernité tout en gardant quand même un pied assez ancré dans les traditions. Alors, c'est l'histoire de Lise Tancrel qui est interprétée par Annie Girardot, on en parlera tout à l'heure, donc commissaire de police, qui a la surprise de constater que le cyclomotoriste qui se déplace en Solex, qu'elle vient de heurter avec sa voiture, n'est autre que Antoine Lemercier, interprété par le génial Philippe Noiret, un ancien camarade de classe qu'elle n'a pas vu depuis 25 ans. Alors, ces retrouvailles donnent lieu à un coup de foudre, mais Lise, elle cache sa profession à Antoine, qui est devenu professeur de grec et qui est farouchement anti-police. Et parallèlement à cette romance naissante, Lise doit enquêter sur une série de meurtres assez bizarres. Trois députés assassinés successivement, un poinçon planté dans le dos. La commissaire, elle est moderne. Elle élève seule sa fille, alors quand même avec sa mère et sa tante, et elle dirige une équipe d'hommes et elle tient tête à sa hiérarchie. L'enquête, au final, c'est qu'un prétexte pour raconter la rencontre improbable entre ces deux monstres du cinéma de l'époque, Annie Girardot et l'irremplaçable Philippe Noiret à la carrière magistrale. Le duo, il fonctionne à la perfection, grâce notamment au dialogue d'Audiard et à la complicité entre ces deux acteurs qui avaient déjà tourné ensemble dans La vieille fille en 1971. Alors, arrêtons-nous un instant sur Annie Girardot, comédienne chère à ton cœur, oui. Laurence. Hein. Oui. Donc Annie Girardot, elle est née en 1931. Elle est morte en 2011. Elle a commencé sa carrière au théâtre. Elle a même fait un petit tour par la Comédie française. Elle est restée seulement 3 ans. Puis c'est Visconti qui lance sa carrière en 1960 avec Rocco et ses frères. Et ensuite, elle a tourné avec de nombreux réalisateurs français et italien. Et elle a été une des premières femmes à interpréter des personnages au métier jusque-là réservé aux hommes. Reporter, commissaire, médecin. Et donc, elle n'était pas réduite à un objet de désir, contrairement à beaucoup d'actrices de cinéma de l'époque. Et beaucoup de femmes pouvaient s'identifier alors à elle. C'était une sorte d'anti-star, anti-star à paillettes, accessible et populaire. Et avec sa gouaille et sa formidable vitalité, elle incarnait des femmes fortes et parfois rebelles. Et elle disait « J'ai toujours fait mon marché, mes courses, mon ménage. Je n'ai jamais été une star veloutée. » Alors Laurence, pourquoi est-ce qu'elle te tient tellement à cœur, cette actrice ?
Dans le parcours que tu m'as demandé de films que j'aimais, bon, c'est, moi, 78 ce film, oui. Hein, donc j'avais déjà ancré en tête le métier de comédienne, enfin voilà, et quand je voyais Annie Girardot, elle parle vite, elle marche vite, elle sa gueule, ça fume, elle marche avec des talons, des bottes à talons, ses jupes en velours, ses chemisiers blancs avec le jabot. Enfin, je sais pas, ça m'épatait. Et puis Paris, elle avait ce côté populaire, mais en même temps la classe.
Ouais.
La classe, parce qu'elle était souvent la seule femme parmi les hommes. Elle leur tenait tête. Et elle semblait seule aussi dans sa famille. Enfin, je ne me souviens pas des mecs avec qui elle vivait dans les films. Mmh. Et puis, c'est du velours. Annie Girardot et Philippe Noiret. Enfin,
ouais.
Du velours.
Ils ont une incroyable complicité. Hein,
ouais. Ça me fait penser, mais ça n'a rien à voir. Mmh. Mais un dernier duo que j'ai vu au cinéma dernièrement, c'est avec la femme la plus riche du monde entre Isabelle Huppert et Laurent Lafitte. C'est, pareil, c'est du velours, c'est du bonbon, c'est génial. Enfin, ils se connaissent peut-être par cœur, mais ça joue.
C'est ça.
C'est extraordinaire.
Comme s'ils allaient anticiper en fait à chaque fois, voilà les réactions de l'autre et
ça joue.
Ouais.
Voilà. Donc moi, cette comédienne, elle m'a toujours marquée. Je l'ai toujours respectée, même si elle n'a pas toujours fait des films formidables,
non.
Mais ça elle n'y pouvait peut-être pas grand-chose. Je sais pas, il y avait sa coiffure aussi, elle avait les cheveux courts et elle paraissait déjà plus âgée que les autres comédiennes. Et puis en même temps, elle avait l'impression qu'elle ne vieillissait pas par rapport aux autres. Enfin, il y avait quelque chose de fascinant.
C'était difficile de donner un âge, c'est vrai.
C'était difficile. Ouais. En parallèle, j'aimais beaucoup Jacqueline Maillan. Et c'est pareil, c'était une femme qui, pour d'autres raisons, mais que j'aimais beaucoup, mais... Elle semblait déjà vieille avant les autres. Et puis après, elles ont un boulevard. C'est-à-dire qu'elles ont tellement pris de marge que c'est bon, quoi.
Oui, c'est ça. Ouais, une forme de, à part, qu'on est à part. Et puis on assume. Et puis voilà, on a l'impression que toute critique ne les atteindra pas.
C'est ça. Mais Annie Girardot, je... Moi, j'en ai la chair de poule quand j'en parle, mais moi, ça me souvient de son fameux discours au César.
Oui.
Je ne sais pas si j'ai manqué au cinéma français, mais... À moi, le cinéma français a manqué. Follement. Éperdument. Douloureusement. Et... Votre témoignage, votre amour... Il faut penser que peut-être, je le dis bien peut-être, je ne suis pas encore tout à fait morte.
C'est terriblement sincère.
Terriblement sincère.
Parce que voilà, je pense qu'il y a du jeu, il y a même quand on est dans des cérémonies, mais il y avait une émotion pure, quoi, une sincérité absolue qui fait qu'on ne pouvait qu'être touché par cette déclaration qu'elle faisait au cinéma.
Ouais.
Alors en 1977... Il y avait un certain Nicolas Perrac qui chantait ça.
Je pars, le vol de nuit s'en va, destination Bahia, Buenos Aires ou Cuba. Je pars, prends soin de l'opéra. La rue des Lilas, bien que cette fois, la valise. Destination Zagreb, viens à venir. Je souffle la bougie, je me dessine une folie. Les doigts croisés sur l'infini, je dis salut. Et peut-être qu'un jour, je serai de retour. Qui peut me dire comment l'exil vient aux errants. Je pars.
Maintenant avec toi Laurence, de ton travail, ton métier de comédienne. Mais comment ça a commencé tout ça ?
Ça a toujours été dans ma tête depuis que je suis toute petite. Même si je n'avais pas un physique facile, j'étais plutôt boulotte, extrêmement timide. Mais j'aimais beaucoup m'entourer de garçons, uniquement de garçons. Parce que je trouvais que les filles, c'était pénible, c'était compliqué, j'arrivais pas à comprendre les codes des filles. Et puis, j'ai été très, très harcelée par une fille pendant toute la primaire. Et elle faisait du théâtre, au petit club de théâtre à La Chapelle-sur-Erdre. Et un jour, un samedi, elle vient toquer à ma porte et me dit « Ouais, est-ce que tu n'aurais pas un châle pour faire un spectacle ?» Donc je lui prête ce châle et puis je vais la voir. Et je me dis « Mais pourquoi ce n'est pas moi qui suis sur le plateau ?» Et le samedi d'après, je me suis inscrite à ce cours de théâtre. Et puis le metteur en scène a eu la bonne idée de nous mettre toutes les deux ensemble pour jouer des jumelles. Et c'est elle qui avait décidé de la tenue, qui forcément, moi, me mettait absolument pas en valeur, mais elle, oui. Et en fait, quand s'est passée la représentation, l'unique représentation, c'est moi qui a fait rire tout le monde et elle a beaucoup moins. Et ça a été ma revanche.
D'accord, ok.
Voilà. Mais bon, je n'avais pas été là, j'y serais allée de toute façon.
D'accord.
C'était une raison de vivre. Et puis voilà.
D'accord.
Les choses se sont enchaînées.
Oui.
Par mes parents ont été extrêmement sympas. Ils m'ont dit, tu passes ton bac d'abord, mais après tu fais ce que tu veux. Et donc j'ai fait une école de théâtre qui s'est ouverte à Nantes. Enfin, avant, j'avais fait le conservatoire.
À Nantes ?
À Nantes,
oui.
Et puis ensuite, j'ai fait le studio théâtre,
oui,
du CRDC avec
d'accord,
Pierre Gralpois et,
oui,
Jacques Guillou, que je salue,
oui,
mes papas.
Oui.
Et puis, il s'avérait qu'à l'époque, en 98, il y avait énormément besoin de jeunes comédiens. Donc on a trouvé du travail tout de suite, les choses se sont enchaînées, que ce soit bien pour des comédies, pour du classique, des comédies musicales, avec Jean-Luc Canet, Christophe Rouxel, avec Yvon Lapousse, avec Laurent Mindon, enfin bon, il y a eu beaucoup.
Comédie musicale un peu, non ?
Moi ?
Oui.
Oh, oui, beaucoup.
Oui, hein, beaucoup,
oui.
Parce qu'il en a monté quand même.
Oui.
C'est annexe, je crois.
Oui, Jean-Luc Canet.
Il en a monté un certain nombre, des comédies musicales.
Trois comédies musicales.
Oui, super. Ouais, j'ai eu la chance de voir. Donc,
oui. Oh,
c'était un plaisir incroyable. Bah, vraiment.
Tu m'as peut-être vu alors.
Oui, certainement. Une joie, enfin voilà, une espèce de collectif aussi. Hein.
Ouais.
Collectif,
ouais. Il semble, c'était nouveau. C'était Ensuite, pour des raisons de santé, à 45 ans, j'étais un petit peu obligée de mettre en suspens le travail, mais quoique j'ai continué à travailler avec le cathéter, etc. Mais on disparaît et un petit peu et on baisse la garde et on se fait vite oublier. Mm-hmm. Et il s'avère aussi que, je tiens à le souligner, mais que pour les femmes, notre métier, et dans d'autres professions bien évidemment, mais eh bien, on nous met à l'écart. Voilà. Je ne fais aucune victimisation.
Tu veux juste dire un constat. Avec l'âge, c'est
avec
ça,
l'âge,
à cause de l'âge.
Les rôles au théâtre, il y en a beaucoup moins. Mm-hmm. Beaucoup moins. Donc, je me suis dit, qu'est-ce que tu fais ? Est-ce que tu pleures sur ton sort ou est-ce que tu attends qu'on te téléphone ? Et j'ai pris le taureau par les cornes. Et c'est grâce à une rencontre avec Ingrid Chikawi.
Voilà, Ingrid qu'on a reçue dans Film Mémoire.
Oui. Et un jour, me dit, écoute, t'as été prise pour un casting. Ah bon ? Mais je n'ai même pas été au casting. Ouais, mais t'as été prise. Le Réal a dit que c'était toi. Et je me suis dit, tiens, je ratais toujours mes castings avant parce que je jouais un peu trop. Je voulais trop montrer que je savais jouer. Et voilà, ça a donné la porte ouverte. J'ai fait des stages avec des directeurs de casting. J'ai trouvé un agent, un deuxième agent. Et là, je suis avec un agent super. Gauthier Martin, voilà, qui est sur Paris. Et je dirais que depuis 6 ans, les choses avancent. Et maintenant, il se passe des très, très belles choses.
Alors, est-ce que tu saurais dire quel est le rôle que tu as le plus apprécié, je veux dire, d'interpréter ? Est-ce que tu...
Au théâtre ou au cinéma ?
Cinéma.
Cinéma. Ouais, il y en a un que j'aime beaucoup. Comme je vous dis, ça fait 6 ans. Donc, je fais mon petit bonhomme de chemin. Femme aussi, de plus de 50 ans, il n'y a pas tant de rôles que ça au cinéma, mais il y en a. Là, je tiens absolument à le citer. C'est une série qui s'appelle Extra Lucide, qui est sortie sur OCS Ciné Plus le 18 novembre.
Et qu'on peut toujours voir.
D'accord. C'est donc Bruno Merle et Emmanuelle Destrebo, qui est aussi autrice, comédienne, qui ont réalisé cette super série avec Camille Rutherford et Sabrina Ouazani. Et je joue une SDF recueillie par Sabrina Ouazani, qui est une ex-comédienne porno. Voilà. Mais j'en dirai pas plus parce que le sujet est top. Oui. Et vraiment, je dois dire que cette série, elle est un truc nouveau dans le rythme. C'est très, très rythmé. Okay.
C'est plutôt comédie, alors ? Comédie sociale ?
Comédie sociale, oui. Voilà. C'est hyper bien joué. Non, mais vraiment, je ne dis pas ça parce que... Il y a un casting qu'on ne voit pas souvent. Ouais. Mais,
okay. Donc, tu nous rappelles le titre ?
Extra Lucide.
Extra Lucide, à
de
voir.
De Bruno Merle et Emmanuel Destremo sur OCS Ciné Plus.
Ciné Plus. D'accord. Moi, j'avais une petite question. Comment on se prépare pour un rôle ? Est-ce que c'est toujours la même façon de se préparer ? Comment ça se passe ? Pour ce rôle de SDF, par exemple, as-tu réfléchi à la condition de vie des personnes à la rue ? Est-ce que tu t'es imprégné de ça avant ou pas ?
Oui, avant. Enfin, en fait, le parcours était un peu... Je vais essayer de faire court, mais le parcours a été compliqué parce que ça a commencé par le casting. On m'a demandé de faire une vidéo chez moi d'une SDF. Il fallait à ce moment-là que je fasse croire au réalisateur que j'étais une SDF. J'ai dit à la directrice de casting, mais attends, je suis comédienne. Non, bien sûr, mais ça serait bien qu'il croit vraiment que t'es une SDF. Donc tu racontes un truc vraiment glauque qui t'est arrivé, t'as pris une décision importante dans ta vie. J'ai dit, ok, mais moi, il m'est rien arrivé de glauque. Franchement. Donc, dans la nuit, j'ai regardé des reportages sur des femmes seules qui vont dans la rue. Voilà, je me suis imprégnée. Et puis, il y a un petit souvenir d'un truc glauque, mais qui ne m'était pas vraiment arrivé à moi. Mais bon, bref. Et le lendemain, je tombe malade. Je J'ai la migraine, j'ai mal à la gorge, j'ai une température, j'ai les cheveux dégueulasses. Je demande à mon mari de me filmer. Il dit, bah, écoute, je le fais et puis on verra bien. Et je fais la prise, il me dit, tu veux la refaire ? Je dis, non, c'est bon. Mais parce que je me disais, bah, je pense que j'ai touché un truc, on verra. En tout cas, moi, j'étais contente de ce que j'avais fait. Et j'envoie ça à la directrice de casting qui une semaine après me dit, bon bah écoute, c'est bon, maintenant il va falloir que tu passes le deuxième round, c'est-à-dire on appelle ça dans le jargon cinématographique le callback, c'est quand le réalisateur ou la réalisatrice hésite entre les comédiens, les deux derniers, trois derniers, et puis entre-temps, donc il y avait un rendez-vous qui était fixé, et entre-temps, bam, on me dit, bah, en fait, il n'y a peut-être plus d'argent, Canal Plus se retirer, donc on ne sait pas si le projet aura lieu ou pas. Et donc, bah, je le mets ça derrière ma tête, en disant, bon, ben voilà, hein, c'est comme ça. Et en septembre, on me rappelle pour me dire, bah, écoute, voilà, ça y est, c'est reparti. Bon, le Réal voudrait vraiment te rencontrer, mais ce serait bien que tu inventes une autre histoire. Donc, j'ai encore regardé d'autres reportages, etc. Et là, la rencontre avec Bruno Merle s'est super bien passée. Et là où je suis plutôt heureuse, c'est que dans le film, que vous allez tous voir...
Bien sûr.
Et bien, ce que j'ai fait en casting, on l'a gardé avec l'autrice. Elle m'a, à toutes les deux, on a bricolé un monologue.
D'accord.
Voilà. Donc là, je me suis pas, je me suis. L'exercice du casting a été un travail de grosse préparation, si bien que j'étais prête.
Ouais.
Pour le rôle.
D'accord. Ok.
Mais il y a plein de fois. On me demande souvent des rôles de femmes de caractère, autoritaire, pas très agréable. Donc, je ne peux pas vous dire que je me prépare forcément à être désagréable.
Oui, ça ne correspond pas forcément à qui tu es.
Non, pas vraiment. Donc, je m'amuse.
Oui, c'est ça. Ouais. C'est ça, le jeu, jouer. Ouais. Et entre théâtre et cinéma, qu'est-ce que ton cœur balance plutôt vers quel côté ?
Ah, j'ai envie de dire cinéma maintenant. Parce que je suis en train de poursuivre ce chemin. Mais j'ai envie de revenir au théâtre, bien sûr. Ouais. Okay. Mais là, j'aimerais aller dans des contrées que je ne connais pas, que j'ai jamais abordées. C'est plus peut-être des petits théâtres parisiens, voilà.
D'accord.
Jouer style pendant 3 mois, les jeudis, vendredis, samedi, ça j'aimerais bien.
Oui. Bon,
j'ai jamais fait. D'accord. Je n'ai fait que théâtre subventionné, donc. Et je dois le dire, c'est vrai qu'à l'époque, on regardait le théâtre privé d'un air supérieur.
Oui. Oui.
Et maintenant, je côtoie plus à Paris, les comédiens, bah, ils jouent tous dans des théâtres privés. Et voilà, et je me rends compte que c'est des gens tout à fait normaux, sympathiques, et qui font un
et puis avec des rôles intéressants.
Des rôles très intéressants.
Ouais. Voilà. Ouais. Donc, tout à fait.
Je dirais plutôt cinéma. Ouais,
d'accord. Plutôt cinéma. Alors justement, tu as des projets ?
Oui. Là, j'étais sur le film de Grégoire Ludig qui s'appelle « Gilles United ». Grégoire Ludig, c'est un des deux compères de Palmachot. Voilà, donc là, je joue une patronne de bar. Ça, c'est terminé, là, il y a une semaine. Et là, j'attends des réponses.
Alors, pardon, ce film, donc, tu dis, qui s'appelle ?
Gilles United,
on pourra le voir quand ?
Dans un an.
Dans un an.
Dans un an, le temps
de... Fin 2026
ou à la rentrée.
Voilà. D'accord, on en reparlera alors.
Une comédie, on en reparlera, oui.
Qui se passe en Bretagne.
Bretagne, voilà.
Okay. Dans le monde du football ?
Dans le monde du football.
Voilà, c'est les petites infos que j'ai réussi à glaner.
Oui, je n'en dirai pas plus parce que Grégoire Ludig a été très secret sur ce projet.
Maintenir le suspense sur le film.
Vous pourrez me voir dans... Je suis la nouvelle commissaire dans la série César Wagner sur France Télévisions.
D'accord. 2.
Voilà, la nouvelle commissaire.
La nouvelle commissaire, parce qu'il y en a un qui part.
Il y en a une qui est partie.
Une qui part.
Une comédienne qui a décidé de partir. Oui. Et voilà, je la remplace. Et puis, on me verra aussi dans un épisode de Master Crime.
je trouve ça assez extraordinaire, d'ailleurs, quand dans des séries comme ça, il y a un des héros ou le personnage qui meurt tragiquement. À chaque fois, je me dis, ah, c'est bon, lui, là, il doit en avoir marre ou elle doit en avoir marre de tourner de la série. Donc, hop, on le fait disparaître.
Oui, il y a un peu de ça.
C'est assez facile, finalement.
Oui, il y a un peu de ça.
Un scénario, on les fait disparaître parce qu'on ne les verra pas par la suite. Ils ne sont plus disponibles. Merci beaucoup,
merci,
Laurence,
Nathalie,
pour ce précieux témoignage sur le métier de comédienne. Très passionnant, on aurait pu continuer encore, encore longtemps.
Ce n'est pas un exercice que j'aime beaucoup, de parler de moi, pas du tout.
Non, mais c'était passionnant en tout cas. Et puis voilà, peut-être qu'on te retrouvera à l'occasion de la sortie du film l'année prochaine. Jill United, pourquoi pas.
Oui, il y aura aussi le film de Daniel Jaoui.
Ah, d'accord.
Ouais, qui s'appelle Autant pour nous.
Oui.
Voilà. Il y aura aussi le Tekel. Puis voilà.
Et alors, ce film, Daniel Jaoui, qui sort aussi l'année prochaine?
Oui, il a été tourné en mai, juin, juillet. Ça, c'est dans le monde de l'opéra, les agressions sexuelles dans le monde de l'opéra. Elle joue dans ce film. Et il y a aussi Daniel Auteuil. Et il y a beaucoup d'autres comédiens aussi.
D'accord. Et toi, non? Qu'est-ce que tu...
Moi, je fais la chef d'écho. Elle me commande de faire des phallus géants.
Voilà. Sacré
comme
projet.
Comme quoi, il faut savoir
tout faire dans ce métier. À très bientôt sur les écrans, ou peut-être ici, dans le studio de Jet. À très bientôt, Laurence. Vous êtes toujours sur Jet FM 91.2, à l'écoute de Film et Moi, l'émission mensuelle sur et pour le cinéma.
Était-ce l'hiver qui coulait de ses yeux? Ce salaud d'hiver, il éteignait le feu qui courait hier encore dans ce corps soudain là figé en bloc de pierre. Tu passais des heures avant entre les marronniers à compter les boutons d'or, à jouer sans arrêt. Quand d'un coup de vent de terre, augure d'hiver, tu t'es recroquevillé en bloc de pierre. Et ce quelque chose dans l'air qui fleurait la fin des beaux jours, ce je ne sais quoi dans l'atmosphère, te faisait mal comme un amour qu'on voit s'éloigner sans rien dire. Et tu restais sans rien dire à fixer le néant comme un aimant. Et c'était pas fait pour aller mieux. T'étais pas encore amoureuse, mais déjà l'air égaré. Tu regardais passer les heures, assise au fond du canapé, rideau tiré, que rien ne t'atteigne, pas même les jours heureux. C'est vrai que la mer est froide et silencieuse, que rien ne rayonne plus sous ton ciel pluvieux. Mais dans les chaumières, quand la nuit tombe et que s'allument les cheminées, les cœurs s'éclairent. On passait des heures ensemble à s'amuser de peu, à crier à ta fenêtre de prendre part à nos jeux. Mais maintenant que la pire des peurs t'a prise de court, comment te dire que chaque jour qui passe est une aubaine à qui le veut? Mais c'était pas des journées joyeuses, mais c'était pas fait pour aller mieux. T'étais pas encore amoureuse, mais déjà l'air égaré. Tu regardais passer les heures, assise au fond du canapé, rideau retiré. Que rien ne t'atteigne, pas même les jours heureux. Et ce quelque chose dans l'air
qui fleurait la fin des beaux jours. Ce je ne sais quoi dans l'atmosphère te faisait mal comme un amour qu'on voit s'éloigner sans rien dire. Et tu restais sans rien dire à fixer le néant comme un aimant. Et ça viendra les journées joyeuses, on fera tout pour t'y amener. Toi tu tomberas enfin amoureuse, t'en as déjà l'air égaré. Et tu verras plus passer les heures à t'évader vent dans le dos, cheveux lâchés, que rien ne t'atteigne, pas même les jours plus vieux.
C'était Film et moi, l'émission cinéma mensuelle sur Jet 91.2. Retrouvez-nous aussi en podcast sur le site de Jet, jetfm.fr.